RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF France Ardenne, l'heure du 18-19, présenté ce soir par Alexis Claudretz.
Et c'est avec plaisir que l'on vous retrouve ce mardi pour un magazine local avec nos amis de RCF France Ardennes qui nous écoutent du côté de Reims et des communes aux alentours, du côté des Ardennes, à Charleville-Mézières, à Sedan, à Verrotel, à Vouziers peut-être, avec un programme où l'on retrouvera nos habitués tout de même du mardi, notamment Jean-François Boulanger et sa chronique Mémoire chrétienne qui nous parlera de Sainte-Nino, une mémoire géorgienne et rémoise. C'est ce qu'on découvrira dans quelques instants. Un maire qui nous parle, Christophe Corbeau et l'édile de Verzy, il sera au micro de Jean-Pierre Benoît. Jean-Pierre qui interrogera aussi Mgr Éric de Moulin-Beaufort et Mgr Emmanuel Petit, qui est le recteur de l'Institut catholique de Paris, puisque les deux institutions que sont le diocèse de Reims et l'ICP ont signé une convention pastorale. C'était hier, on reviendra sur ce temps fort. Hubert le jardinier nous emmènera faire un tour dans nos jardins, parce qu'avec le gel, on ne sait pas trop comment s'occuper de nos plantes et de nos arbres fruitiers. Il nous prodiguera tous ces bons conseils. Et puis on fera un zoom sur l'UIMM Champagne-Ardennes, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, avec les rendez-vous et les nouveautés du pôle formation présenté par le délégué général de l'UIMM en Champagne-Ardennes, Sébastien Guenet. Mais avant d'attaquer tout ce programme, je vous présente ou représente notre stagiaire à la rédaction, Alice Darc. Alice, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Et on vous retrouvera en toute fin d'édition aujourd'hui pour la météo avec les tendances de la journée de mercredi, où il va falloir s'attendre à du vent, notamment Alice.
Oui, plutôt beaucoup de vent du côté des Ardennes.
Ça va souffler. Allez, c'est parti pour ce magazine. Et même si on est en local, c'est ce que je vous disais pendant l'introduction, on garde nos repères avec Jean-François Boulanger pour ouvrir le bal ce soir avec un numéro inédit de Mémoire chrétienne. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui de Sainte-Nino, une mémoire géorgienne, mais aussi une mémoire rémoise. En effet, c'est le numéro que vous consacrez aujourd'hui à Mémoire chrétienne, à ce personnage bien particulier, puisqu'il s'agit donc de Sainte-Nino de Cappadoce, considérée comme l'évangélisatrice de la Géorgie.
Oui, tout à fait, un personnage bien particulier pour un pays que l'on ne connaît pas très bien, mais que l'on considère souvent comme la deuxième nation devenue chrétienne après l'Arménie, toute proche. Nous avons déjà évoqué les saints évangélisateurs de tel ou tel pays dans cette émission. La particularité du cas géorgien, telle que la tradition le relate, c'est que c'est une femme qui est présentée comme étant à l'origine de l'évangélisation de la Géorgie.
Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire Jean-François Boulanger, peut-être que l'on peut commencer par apporter quelques précisions sur la Géorgie, notamment sur le plan religieux.
Oui, c'est un petit pays dont la superficie représente à peu près un huitième de celle de la France, qui se trouve au cœur du Caucase. À son nord, il y a le Grand Caucase qui le sépare de la Russie et dont les sommets les plus élevés culminent à plus de 5000 mètres. Et au sud, il y a le Petit Caucase qui le sépare de l'Arménie et de la Turquie. À l'est, il est frontalier de l'Azerbaïdjan et à l'ouest, il est bordé par la mer Noire, où d'ailleurs le climat est subtropical. Sa population s'élève à environ 4 millions d'habitants, mais il existe une forte diaspora géorgienne à travers le monde, presque aussi nombreuse qu'en Géorgie même, essentiellement en Turquie, en Russie, en Iran, sans compter ceux qui sont venus se réfugier en France au XXe siècle, après la révolution russe de 1917 ou après la Seconde Guerre mondiale, ou aux États-Unis. Sur le plan religieux, en 2022, 84% des Géorgiens se déclarent chrétiens orthodoxes et 10% musulmans, essentiellement près de la Turquie. Les chrétiens orthodoxes relèvent de l'église autocéphale de Géorgie, appelée également Catholicosa Patriarcha de toute la Géorgie. Et donc elle est autocéphale depuis 484.
Il va nous falloir un petit peu d'explication, Jean-François Boulanger. Autocéphale, qu'entendez-vous par là ?
Eh bien, dans le monde orthodoxe, une église est dite autocéphale lorsqu'elle ne dépend pas d'une autorité extérieure comme celle du patriarche de Constantinople ou, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, celle du patriarche de Moscou. Car lorsque le pays était passé sous domination russe, l'autocéphalie avait été abolie en 1811 au profit du patriarche de Moscou. Elle est ensuite rétablie en 1917 lorsque l'empire tsariste disparaît, mais elle n'avait pas vraiment de sens à l'époque du régime communiste, parce que les deux églises étaient persécutées. Et il existe donc également aujourd'hui en Géorgie des chrétiens orthodoxes fidèles à l'église orthodoxe russe, donc reconnaissant le patriarche de Moscou, et des fidèles de l'église apostolique arménienne. Enfin, il y a quelques catholiques, 19 000 en 2014.
Ce serait donc Sainte Nino qui serait à l'origine de ce christianisme organisé en église autocéphale, si l'on suit une certaine logique, Jean-François Boulanger.
Oui, oui et non. Oui et non, parce qu'il y a une tradition qui fait remonter à l'apôtre André, qui est mort crucifié à Rome en 60, le début du christianisme en Géorgie. Ainsi serait établie l'apostolicité de l'église géorgienne. Cette thèse est aujourd'hui fortement contestée, parce qu'on n'a pas beaucoup de preuves, on n'en a pas du tout, de preuves de la venue de Saint André donc dans la Colchide, c'est-à-dire la partie occidentale de la Géorgie, proche de la mer Noire, qui était contrôlée un temps par l'Empire romain. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les églises, quelles qu'elles soient, ont rivalisé entre elles pendant longtemps, et pour cela, ont cherché dans le rapport plus ou moins direct avec Jésus et ses apôtres, des preuves de leur ancienneté et des raisons de se donner un certain prestige. Mais c'est en 317 que, grâce à l'action de Saint Nino, que le christianisme a été déclaré religion officielle de la Géorgie. Voici le récit que Ruffin, dans son histoire ecclésiastique, fait des événements qui conduisent à cela. La partie orientale de l'actuelle Géorgie, que les anciens appelaient Libérie, était alors un royaume indépendant. Or, c'est dans ce royaume qu'arrive une captive, dont on parle beaucoup parce que sa vie est pieuse et chaste. Vous aurez compris que c'est Nino, dont les prières permettent la guérison d'un enfant, ce qui attire l'attention de la reine, Nana, qui, malade elle-même, sollicite la prière de la vertueuse esclave. Nana est guérie et elle s'efforce à ce moment-là de gagner à la foi chrétienne son époux, le roi Myrian III, sans y réussir. Mais il faut donc la délivrance miraculeuse d'un danger en période de chasse pour amener Myrian à renoncer aux idoles. Et c'est ainsi que la Géorgie serait devenue chrétienne. Saint Nino passe ensuite les dernières de sa vie à Bobdé, et c'est là qu'elle fut enterrée.
Et on peut supposer que c'est là que les Géorgiens la vénèrent.
En effet, c'est un monastère qui est situé à 2 km de la ville de Signaghi, en Kakhétie, c'est l'extrémité sud-est du pays, dans l'une des provinces historiques du pays. C'est d'ailleurs la partie la plus orientale de la chrétienté traditionnelle, aux confins des pays de l'islam, puisque nous sommes en proximité de l'Azerbaïdjan. Et de nos jours, beaucoup de gens viennent se recueillir devant sa tombe. On dit que celles et ceux qui viennent prier Saint Nino sur sa tombe voient leurs vœux exaucés. Certains y déposent tous leurs bijoux pour pouvoir la prier avec un cœur pur. Et à 400 mètres du monastère se trouve la source d'eau de Saint Nino, qui est apparue de façon inexplicable au IVe siècle. Cette source sacrée posséderait des vertus curatives, l'eau est glacée, mais tous ceux qui y croient donc y vont. Et Saint Nino, par ailleurs, a pour attribution la croix de la grappe. C'est une croix dont les bras sont légèrement incurvés vers le bas et elle est le symbole de l'église orthodoxe de Géorgie.
Est-ce le seul lieu de mémoire dédié à la conversion de la Géorgie, Jean-François?
Non, parce que dans la ville d'Ekheta, qui fut la capitale de Libérie du 3e au 5e siècle, eh bien, on trouve effectivement un lieu de culte, effectivement une cathédrale, hein, très importante, où Nino a sa place. Aujourd'hui, cette ville est une commune de 5000 habitants, mais elle demeure la capitale spirituelle du pays. Elle abrite toujours d'ailleurs le patriarche de Géorgie, et en 2014, la ville a été déclarée ville sainte par justement ce patriarche, ville sainte de toute la Géorgie.
Se réfère-t-on à Saint Nino en dehors de la Géorgie ?
Oui, et notamment en France, et de deux façons différentes, dont l'une est proche de nous géographiquement. On va y revenir, mais commençons d'abord par la moins surprenante de ces deux façons. Il existe une paroisse orthodoxe géorgienne Saint-Nino de Paris qui a été fondée en 1929. D'une façon a priori surprenante, elle dépend du patriarcat œcuménique de Constantinople.
Alors là, des éléments nous échappent, Jean-François Boulanger. Pourquoi n'est-elle pas rattachée à l'église autocéphale ?
Parce qu'en 1921, à la suite de l'annexion soviétique de la Géorgie, qui avait profité de la chute du tsarisme pour proclamer son indépendance, des réfugiés politiques s'étaient exilés en France, où vivait donc à l'époque une communauté géorgienne forte d'un millier de personnes, notamment en région parisienne, à Leuville-sur-Auge. Et c'est dans ces rangs que surgit l'idée de créer une paroisse à Paris. Elle est fondée en 1929, elle se trouve aujourd'hui dans le 15e arrondissement de Paris, rue de la Rosière, dans le quartier de Javel. Et elle se targue d'avoir été, depuis sa fondation jusqu'en 1991, la seule entité religieuse géorgienne échappant aux autorités, au contrôle des autorités occupantes, c'est-à-dire soviétiques.
Jean-François Boulanger, il va être l'heure de conclure cette chronique. On reste un petit peu sur notre fin parce que vous nous aviez dit que cette histoire était liée aussi à la mémoire rémoise quelque part. Et vous nous avez dit que la mémoire de Saint-Nino est aussi perpétuée près de chez nous il y a quelques instants. À quoi faites-vous allusion ?
Oui, parce que Nino correspond en latin à Christiana, dont Nino et Ninon sont des diminutifs affectués. De ce fait, on la trouve parfois associée à Sainte Christiane ou désignée comme Sainte Chrétienne. Or, Sainte Chrétienne a donné son nom à une congrégation féminine à Paris en 1807 en Moselle, dont la mission était d'éduquer et de soigner. Et cette congrégation est toujours présente dans le diocèse de Reims par l'intermédiaire de la communauté de Don-le-Mesnil dans les Ardennes, communauté créée en 1972. La communauté est aujourd'hui au service de l'espace missionnaire de Charleville-Mézières. Le site du diocèse de Reims présente d'ailleurs Sainte-Nino dans les termes suivants. Pour les Géorgiens, elle est leur illuminatrice, égale aux apôtres. Et vous le voyez, la lumière de Sainte-Nino est donc suffisamment forte pour arriver jusque dans les Ardennes.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur ce personnage de Sainte-Nino et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h22 sur RCF Reims-Ardennes, tout de suite dans le magazine local, un maire vous parle. Avec qui êtes-vous ce soir, Jean-Pierre ?
Et notre maire aujourd'hui est Christophe Corbeau, il est maire de Verzy, dans le département de la Marne. Christophe Corbeau, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous, vous êtes le maire de Verzy. Alors Verzy, c'est combien d'habitants aujourd'hui ?
Alors le recensement est dit l'année dernière, Verzy est à 980 habitants. Alors on fluctue avec autour de nous puisque hélas la population évolue. Le village est un bourg et on est à 1000 habitants, quoi, on va dire. Ça dépend des membres du recensement.
Alors, monsieur le maire, on va parler bien sûr des faux de Verzy qui sont, j'allais dire, presque mondialement connus. Mais vous êtes maire depuis combien d'années, monsieur Corbeau ?
Alors j'ai commencé c'est mon cinquième mandat, mais j'ai été maire deux mandats. Donc c'est mon deuxième mandat de maire.
Quand on parle de Verzy, est-ce qu'il y a un renouvellement de la population ? Est-ce que vous accueillez peut-être des jeunes ménages, des jeunes couples qui renouvelleraient un petit peu le village ?
Verzy a la chance d'être entre Reims et Chalon et en plus a la chance d'avoir beaucoup de locatifs. Donc c'est vrai qu'il y a des jeunes qui viennent s'installer puisqu'il y a Pluriel, Reims Habitat sont sur Verzy, la commune a un peu de meublé et du coup c'est vrai qu'on a de la rotation, on n'a pas que du sédentaire, c'est vrai. On a la chance d'avoir ces locatifs qui nous permettent de renouveler notre population régulièrement. Ça vit quand même à Verzy.
Quand on parle de Verzy, on pense Champagne, mais je me trompe peut-être, mais quand même, Verzy, Champagne, ça va ensemble.
Alors il y avait un slogan, Verzy, c'est faux, c'est vignoble. Alors on peut toujours le conserver, puisque oui, Verzy est collé à la forêt sur le côté ouest, et à l'est, son vignoble. Donc oui. Verzy est bien niché entre sa forêt, donc les fonds, bien sûr, puisqu'on a un site remarquable, une forêt d'exception, maintenant classée forêt d'exception par l'ONF, et en même temps, de l'autre côté, son vignoble en grand cru, donc qui correspond à une quarantaine d'exploitations viticoles.
Et on sait que ça marche bien en ce moment, on espère que ça va bien marcher encore pour la prochaine vendange, mais en ce moment, ça tourne bien dans le monde du vignoble.
Alors, ce n'est pas les viticulteurs qui peuvent être en première ligne, du moins surtout pas les nôtres, par chez nous en Champagne. Il y a quelques critères administratifs à supprimer, mais ça sera les seules revendications. Je pense que sur le reste, la Champagne va bien, oui.
Monsieur le maire, vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà les faux de Verzy. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, elle est classée. On vient de loin pour voir ces faux.
C'est vrai que les gens appellent pour savoir s'ils peuvent venir visiter. Alors, c'est une forêt de Ménial, donc l'accès est libre, donc il y a différents parkings gérés par l'ONF, et donc le site a été raménagé pour préserver les faux au piétinement. Donc il y a une grande balade autour des Faux qui a été requalifiée par l'ENF avec une accessibilité PMR. Et donc après, ben, vous pouvez faire de la balade en dehors du site des Faux, dans la forêt domaniale. Mais donc il y a un grand site ENF au-dessus de chez nous.
Et puis,
c'est vrai qu'il attire beaucoup de monde.
Est-ce que c'est l'occasion pour ceux qui vont voir les Faux d'aller faire un tour quand même dans le village? Parce que le village, c'est un village très accueillant. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour aménager en quelque sorte le bourg.
Ah ben, c'est vrai que Verzy attire encore et de ce fait, on a encore beaucoup de commerce. Et c'est vrai que ben, si, même si les gens viennent se promener, il y a toujours la boulangerie, il y a un restaurant, il y a une épicerie. On peut encore rester à Verzy la journée, quoi. On peut quand même. Et puis on peut profiter à côté du phare de Verzenay, on va pas être chauvin, qui est là pour faire le complément sur le vignoble.
Alors il faut dire aussi qu'il y a des communautés de communes, mais un maire, on le dit à chaque fois, il reste quand même entre guillemets le patron dans le village. C'est quand même lui qui est interpellé, en bien ou en mal d'ailleurs, par vos administrés.
Alors oui, même si on est rentré dans ce qui s'appelle le Grand Reims, la communauté urbaine du Grand Reims, logiquement le maire a tout pouvoir sur sa commune. Même si certaines décisions sont prises par le Grand Reims, logiquement c'est toujours le conseil et le maire qui ont pouvoir. Après, sur les histoires d'administrer, bah oui, c'est toujours le premier magistrat qui est en première ligne à chaque fois, puisque s'il y a des revendications ou des remarques, c'est toujours le maire qui passe en premier. C'est son rôle, on va dire.
On dit souvent que c'est un travail qui est de plus en plus compliqué et que, par exemple, quelqu'un qui a une activité professionnelle, il a bien du mal à conjuguer les deux, le fait d'être maire et le fait d'avoir un métier. Est-ce que, bon, vous êtes peut-être en retraite maintenant, Monsieur Corbeau?
Je ne vais pas nier. Donc, officiellement, je ne suis pas en retraite, mais j'ai mon fils qui a repris l'activité avec moi en co-gérance. Et donc, c'est lui qui est devenu, on va dire, qui est pour prendre les rênes de l'exploitation. Et donc, j'ai un peu plus, beaucoup de disponibilité.
Vigneron un jour, vigneron toujours?
Ah oui, non, mais je serai toujours vigneron, mais je vais plus à la vigne. Je fais plus de ce qui est comptabilité que de vigne.
En fait, t'es paperasse.
Voilà, c'est ça, on fait ce qui est à côté. Mais c'est toujours vigneron, oui, c'est sûr.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, c'est une question qu'on pose de temps en temps, est-ce que vous êtes un maire heureux? Parce qu'on ne peut pas être maire sans passion.
Ah ben, moi, je pense que oui, si on n'a pas la passion, on n'y va pas, parce que sinon c'est un calvaire, quoi. Alors c'est vrai que ça vous prend du temps, ça peut vous occuper certains week-ends, à certains moments. Mais c'est vrai que si la passion est là, bah ça passe. Bon, on a la chance aussi d'avoir un village qui est pas trop demandeur. On n'a pas non plus trop de voyous sur notre commune. Tout se passe bien. Bon, on a des demandes comme tout village, mais ça, c'est quand même un village qui va bien. Et puis c'est vrai que j'ai commencé en tant que simple soldat, je dis toujours, et j'ai appris sur le tas. Et c'est vrai que ça, faut se former avant de dire je veux être maire, quoi. Parce que venir être maire comme ça. Je pense qu'il faut se préparer avant, quoi.
Et accepter d'être dérangé. Vos horaires, monsieur le maire, c'est pas, c'est pas 10h midi, 2h, 4h, hein. C'est aussi bien le week-end, à toute heure, n'importe quand. Et ça, c'est peut-être un petit peu lourd de temps en temps.
Oui, c'est sûr que logiquement, on est 24-24. C'est le tarif. Mais si vous voulez, on peut aussi quand même s'absenter. On a des adjoints pour ça. On délègue aussi quand même. C'est pas non plus pour le maire. Mais c'est vrai que quand on est sur le village, lui, on est censé être 24-24. Après, je pense qu'il y a eu des améliorations vis-à-vis de ça, puisque avant, on avait l'obligation pour accompagner les décès de mettre ce qui s'appelait le bracelet. Et c'était, à certains moments, c'était un peu compliqué. Mais ça, c'est, les services, ont supprimé cette étape et les corps peuvent repartir tranquillement sans que le maire soit présent.
En tout cas, merci Monsieur Christophe Corbeau. On aura l'occasion de vous retrouver. On le dit à chaque fois, mais d'ici la fin de l'année, on referait bien un petit point parce que Verzy, c'est un lieu de visite, en particulier l'été, le printemps et l'été. Et donc, ça serait l'occasion de reparler de Verzy, de ses Faux et de ses vignes.
C'est sûr que le site des Faux, à tout moment, il change. Et donc là, il est en période hivernale, mais vous passez au printemps avec le début. Et l'été, c'est pas la même forêt, quoi.
Merci.
Et pareil.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Christophe Corbeau, et à bientôt sur RCF.
Et merci Jean-Pierre. Enfin.
Le 18-19 sur RCF.
Et deux invités nous rejoignent en studio désormais, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, et Mgr Emmanuel Petit, recteur de l'Institut catholique de Paris. C'est toujours avec Jean-Pierre pour présenter un moment exceptionnel, on peut le dire comme ça en tout cas, entre les deux institutions.
Vous allez signer tous les deux une convention entre l'Institut catholique de Paris et le diocèse de Reims. De quoi s'agit-il, Mgr ?
Eh bien, de quelque chose que nous aurions pu ou dû faire il y a déjà longtemps, en fait. Que, bon, voilà, les choses, les événements s'enchaînent et qu'il faut être disponible. À partir du moment où l'Institut catholique s'est installé ici à Reims, il était utile ou opportun que ses relations avec le diocèse soient un petit peu formalisées. Parce que l'Institut catholique vient, par un certain côté, est une institution de droit privé qui s'installe comme elle veut, où elle veut, et puis le diocèse lui loue un lieu où s'installer. Mais à partir du moment où il s'agit d'une œuvre d'église, ben, il était bon que les relations entre nos deux institutions soient un petit peu clarifiées. Et surtout, il était bon que nous puissions avoir des projets communs.
Monsieur le recteur, la même impression, la même motivation.
Oui, bien sûr.
Motivation.
Ben, c'est exactement en tout cas ce que dit Mgr de Moulin-Beaufort. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avions vraiment le projet en nous installant à Reims, c'est ce que j'avais redit récemment, Mgr de Moulin-Beaufort, de nous intégrer dans l'église locale et de faire partie de l'église locale. Et donc, la convention, elle veut un peu montrer ça. En fait, voilà, c'est pour dire en quelques mots, de manière très simple, c'est le fait que l'Institut catholique de Paris fait partie aussi de l'église de Reims, c'est un des acteurs sur lesquels le diocèse peut compter et donc il y a ce désir de développer des choses ensemble. C'est un peu l'esprit et l'objet de la convention.
Parmi les éléments qui peuvent aider au développement des uns et des autres, il y a bien sûr la formation. L'Institut catholique de Paris amène un savoir-faire et des enseignants de qualité, souvent des conférences d'ailleurs qu'on retransmet sur RCF. Et le diocèse de Reims, lui, est aussi en attente de formateurs. Est-ce que cette convention va intégrer cette dimension de formation ?
Alors, il y a peut-être deux aspects. Le premier, c'est déjà que l'Institut catholique apporte une formation dans l'enseignement supérieur pour les jeunes qui n'étaient pas très présents dans notre enseignement catholique, qui l'était un peu quand même dans l'enseignement professionnel et technique, mais qui manquait pour l'enseignement général. Donc, de ce point de vue-là, l'Institut catholique complète l'offre de l'enseignement catholique telle qu'il est proposé dans notre région. Et visiblement, un certain nombre de personnes, de familles et de jeunes l'apprécient. Et puis d'autre part, pour la vie du diocèse, effectivement, le diocèse a ses propres instruments de formation. En particulier, nous avons une formation un petit peu théologique qui s'appelle les chemins d'Emmaüs, qui est une sorte d'initiation à l'intelligence de la foi et qui fonctionne pas mal. Mais nous avons aussi avec les diocèses de Champagne une formation dite approfondie qui se tient à Troyes. Mais nous avons besoin certainement d'élargir et puis de fortifier notre offre de formation à différents niveaux. Et donc la convention nous invite à réfléchir ensemble à ce que nous pouvons faire.
Il faut dire aussi, monsieur le recteur de l'Institut catholique de Paris, c'est que vous organisez, on l'a dit tout à l'heure, un certain nombre de conférences. Mmh. Et dans ce cadre, des théologiens qui oui. enseignent à Paris ou que vous connaissez dans votre réseau de relations font parfois des conférences à Reims qui oui. peuvent intéresser nos amis des Ardennes, d'ailleurs en visio, ou nos amis de Reims, des diocésains. Là, vous jouez un rôle de formateur pour les diocésains.
Oui, exactement. En tout cas, le plus large possible. Ces conférences, elles sont vraiment ouvertes à tout le monde. Elles sont aussi retransmises. Et le propos, effectivement, c'était de permettre à des théologiens ou des philosophes, des gens qui réfléchissent aux questions religieuses, de pouvoir s'exprimer devant le public le plus large possible. Donc, c'est une manière aussi pour nos enseignants de théologie de connaître Reims, de connaître le campus, de connaître un peu le public aussi qui peut être intéressé par ces questions. Donc, ces conférences, d'ailleurs, elles avaient été bâties un peu comme une première approche, je dirais aussi, d'une manière de se connaître. Et ça peut-être effectivement permettre de déboucher sur des choses plus construites, plus structurées, pour aller plus avant dans la formation.
Cette convention met noir sur blanc ce qui existe peut-être déjà, mais des développements sont peut-être aussi en devenir ou des projets peuvent exister.
C'est bien ce que nous espérons. Dans les publics possibles qu'on a remarqué dans les différentes conférences, il y a aussi des religieuses. Nous avons la chance d'avoir plusieurs monastères ici dans le diocèse, et les religieuses, en particulier les clarisses, par exemple, se montrent fidèles auditrices des conférences. Oui.
Donc ça veut dire développement nouveau, peut-être idée originale, car on ne sait jamais, des initiatives diocésaines peuvent peut-être intéresser l'Institut catholique de Paris et réciproquement. Et puis aussi, il faut saluer déjà des étudiants qui réalisent, par exemple, pour RCF, des émissions.
Mmh, exactement.
Donc ça veut dire aussi de plus en plus une implication, une intrication entre les structures.
Exactement.
Institut catholique de Paris et diocèse.
Exactement. En tout cas, je crois qu'on a tout à fait intérêt à essayer d'écloisonner les choses au maximum. Et évidemment, le risque pour les théologiens, ce serait de rester entre eux ou de faire de la théologie en chambre. Une des choses qui est intéressante, on le voit bien, dans un diocèse comme Reims, est un diocèse qui est très très missionnaire, qui réfléchit beaucoup à comment annoncer l'Évangile aujourd'hui, dans les conditions actuelles, que l'on connaît. Notre monde bouge beaucoup, change beaucoup. Les théologiens réfléchissent à ces questions, mais je crois qu'il faut vraiment que les gens se rencontrent les uns et les autres. Et c'est très stimulant pour tout le monde. Je pense qu'évidemment, la formation est très importante pour les chrétiens, quel que soit leur état de vie, quelle que soit leur mission, etc. Les chrétiens ont besoin de se former, et les théologiens ont aussi besoin de rencontrer le public le plus large possible. Un des propos d'ailleurs à l'Institut catholique de Paris aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de faire dialoguer les disciplines, hein, que justement tout le domaine des sciences sacrées, de la théologie des sciences sacrées aussi, puisse rencontrer les autres disciplines et qu'il y ait un enrichissement mutuel, qu'il y ait ce dialogue qui est très intéressant en soi. Donc ça va en tout cas dans ce sens. Il y a, je crois, un vrai enjeu pour les uns et les autres.
Monseigneur, pour conclure.
Je souscris à ce que vient de dire le Père Petit, qui est donc le recteur de l'Institut catholique de Paris. Je pense que nous avons, comme diocèse aussi, besoin d'être stimulés. Aujourd'hui, on pointe beaucoup la difficulté de faire se lever des bénévoles, hein, des bonnes volontés, pour mille raisons, parce que les rythmes de vie changent. Mais une des raisons, c'est certainement que les gens ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus. Et je pense que l'Institut catholique peut contribuer à l'offre que nous pouvons faire comme diocèse, de manière à ce que des baptisés puissent prendre plus de responsabilités dans notre église diocésaine.
Vous-même, Père Emmanuel Petit, quand vous regardez avec le recul, depuis deux ans et demi, bientôt trois ans, l'implantation de l'ICP Paris dans le campus de Reims, pour vous c'est positif, c'est un bilan
Oui, je me dis le chemin parcouru est quand même un très beau chemin. La chance d'avoir de très bons étudiants, voilà, non seulement des étudiants qui sont là, mais de bons étudiants, c'est très satisfaisant, c'est très stimulant pour nous. C'est très stimulant pour une institution qui, finalement, paradoxalement, était restée comme très parisienne, d'une certaine manière, dans son ADN, alors même qu'elle a été fondée par l'évêque de Reims à l'époque, etc. Enfin, voilà, et je crois qu'il y a un vrai appel aussi à répondre, et comme je le disais, je pense un vrai enjeu pour la théologie à rencontrer le monde tel qu'il est, et bien évidemment, le territoire de Reims en fait largement partie. Et le bilan, effectivement, est très, très stimulant pour nous.
Et puis pour terminer, par exemple, des jeunes étudiants de l'ICP peuvent peut-être rejoindre Monseigneur de Moulin-Beaufort, l'aumônerie des étudiants, s'impliquer dans la vie diocésaine avec les jeunes, par exemple.
Mais ça se fait, je pense, et ça peut se faire de plus en plus, bien sûr. J'espère que le rapport aussi entre les différentes écoles ici est important. Le fait qu'il y ait des jeunes qui étudient à l'Institut catholique de Paris, comme il y a des jeunes à Sciences Po, comme il y a des jeunes à Neoma, comme il y a des jeunes à l'URCA, tout ça peut permettre aussi aux jeunes de faire circuler entre eux des idées, la discussion. En tout cas, c'est ce que nous espérons.
Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Merci, Monsieur le Recteur Emmanuel Petit, d'avoir été avec nous.
Et puis, avec plaisir.
Vous allez signer dans les secondes
qui
viennent.
Merci, Jean-Pierre. Merci
d'avoir été avec nous.
Allons-y.
Merci à vous.
Au revoir.
Et cette fois, ça y est, la convention est signée. C'était hier à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims. Merci à tous les trois, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Emmanuel Petit, recteur de l'Institut catholique de Paris, et Jean-Pierre Benoît. Dans quelques minutes, la suite du 18-19 local avec Hubert Le Jardinier et Sébastien Guenet. Mais avant cela, une plage musicale. Ensemble, l'hymne du diocèse de Reims et des Ardennes, composé par Mathieu Cossier, que vous connaissez bien sur nos ondes.
Ensemble, 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 pas à pas, avançons. Cheminons, grandissons, simplement accueillons, osons partager vraiment. Pas à pas, avançons, cheminons, grandissons, simplement accueillons, osons partager vraiment. Dieu me parle en plein. laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté. Mon frère chemin de sainteté. Mélangez, apprenons, soutenons, acceptons, humblement, désirons le pardon dans nos frictions. Mélangez, apprenons, soutenons, acceptons, humblement, désirons le pardon dans nos frictions. Dieu me parle en l'autre, vais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté. Wow. Mon frère chemin de sainteté. Répétons les merveilles de son nom. Écoutons, recevons, témoignons de son pardon. Baptisés, répétons les merveilles de son nom. Écoutons, recevons, témoignons de son pardon. Dieu me parle en l'autre, vais-je ouvrir mes portes, me laisser imprégner, grandir en fraternité. Mon frère chemin de sainteté. Wow. Mon frère chemin de sainteté. Wow. Toi, moi, eux, nous. Ensemble, toi, moi, eux, nous. Devenons saints. Toi, moi, eux, nous. Ensemble, toi, moi, eux, nous. Devenons saints ensemble, 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 devenons saints ensemble.
C'était Ensemble, l'hymne du diocèse de Reims et des Ardennes. Encore une quinzaine de minutes à passer ensemble ce soir dans le 18-19 sur RCF Reims-Ardennes. Et tout de suite, on va aller faire un tour dans nos jardins avec Hubert le jardinier qui est en ligne avec nous depuis Coulommes, là où il entretient son jardin. Hubert, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Et c'est vrai que je ne vous cache pas qu'on est heureux d'être en ligne avec vous parce que tous les matins, en ce moment, je ne sais pas où donner de la tête. Et même les journées, tantôt il pleut, tantôt il y a du soleil, il y a même des gelées. On doit gratter le pare-brise. On ne sait plus où on en est, Hubert, avec toute cette météo. Et si on ne sait même pas où on en est et comment on doit s'habiller, qu'en est-il dans nos jardins pour nos plantes, nos arbres et pour nos tomates, Hubert ?
Mais vous avez dit un mot important. Comment s'habiller ? Eh bien, les plantes, c'est pareil. Il faut, bon, bien entendu... Si vous partez nu comme un ver lorsqu'il gèle, vous aurez très froid. Bon, les plantes, c'est un peu vrai. Alors, il y a certaines plantes qu'on peut quand même protéger, qu'on peut rhabiller, hein, pour reprendre l'expression. Si vous avez des tomates, des pieds de tomates, alors moi, je vous conseille pas de les mettre en pleine terre maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Mais chez vous, à l'intérieur, vous avez peut-être une petite serre, un tunnel, un abri, vous les avez peut-être cultivées sur votre balcon. Eh bien, ces tomates, pour éviter qu'elles ne gèlent, il faut absolument les protéger le soir avec un voile d'hivernage, c'est l'idéal. Et si vous avez un tunnel, par exemple, si vous avez déjà un petit tunnel, vous faites une seconde protection à l'intérieur. Car il ne faut pas croire, malgré le plastique que vous avez sur vos tunnels ou les verres que vous avez sur vos serres, ils gèlent pareil à l'intérieur. S'il fait moins 1 à l'extérieur, il fera moins 0,5 à l'intérieur. Donc on protège, donc on habille un peu nos pieds de tomates. Voilà, ça c'est important. Le voile d'hivernage, c'est l'idéal, c'est blanc, on dirait un voile de mariée. Et croyez-moi, ça protège bien les plantes lors du gel, si le gel ne descend pas en dessous de moins 2, moins 3. Alors à l'extérieur, Alexis, il y a nos arbres fruitiers.
Vous l'avez compris. Oui, effectivement, et puis d'autant plus que aujourd'hui, ce mardi, dans la une chez nos confrères de l'Union, ils parlaient aussi des vignes, etc. Alors on va peut-être parler d'abord des arbres fruitiers, mais lorsqu'on est en Champagne, on pense aussi à la vigne.
Bon, moi, je peux quand même en parler un tout petit peu de la vigne, si vous le souhaitez. J'ai quelques pieds de vigne, mais justement, pour pas pour du vin, pour manger comme ça avec plaisir. Eh bien, figurez-vous qu'elles sont gelées. Elles sont gelées à l'extérieur, donc elles étaient trop en avance.
Et est-ce que c'est inquiétant?
Comment?
Est-ce que c'est inquiétant, ce gel, sur les vignes et sur les arbres fruitiers?
C'est inquiétant parce que, bon, je sais que les vignerons en parleront mieux que moi, mais il y a les bourgeons axillaires. Il y a d'autres bourgeons qui vont venir et qui vont fleurir et on peut espérer une floraison. Parce que ça fleurit sur le bois de l'année, hein, une vigne. Bon, la vigne, elle est courageuse. Elle essaye de sauver les meubles. Donc, il faut espérer. Et vraiment, pour les vignerons, je leur souhaite que ça se passe bien. Alors, pour les arbres fruitiers, c'est un petit peu plus facile pour moi. Et c'est plus facile. Et j'ai remarqué ce matin, j'ai fait un petit inventaire. Je suis allé vérifier les cerisiers, les pruniers, les pommiers, les poiriers. Apparemment, il n'y a pas trop de dégâts parce que il gèle à moins 1, moi il y a gelé à moins 1 quoi, à peu près, donc moins 1 au sol, les arbres fruitiers sont quand même à 1,50 m voire 2 m de hauteur, j'ai pas constaté de dégâts pour l'instant. Alors peut-être que dans certaines zones il a fait plus froid, ou alors il y a eu plus d'humidité, vous savez c'est l'humidité qui fait aussi l'humidité, elle gèle, qui accentue les effets de la gelée, mais s'il faisait à peu près sec le soir, on passe quand même un peu à travers. Alors aujourd'hui, Météo France, ils nous disent que c'est le pic du froid. Si demain, si vraiment demain, il ne gèle pas, je pense qu'on va avoir quand même des arbres, on va avoir des fruits. Pour la vigne, j'en sais trop rien.
Eh bien en tout cas, un grand merci Hubert Le Jardinier de nous éclairer sur ces expérimentations et comment poussent nos arbres fruitiers, nos différents légumes également. On parlait tout à l'heure de tomates, alors est-ce qu'il faut en dire que c'est un fruit? A priori oui, plutôt qu'un légume. Toutes ces expérimentations, elles sont menées à Coulommes, là où est né le Rosier Garden dont on a déjà parlé sur les ondes de RCF. On aura peut-être l'occasion d'y revenir avec nos auditeurs en région prochainement. En tout cas, un grand merci Hubert Le Jardinier pour votre disponibilité et puis à très bientôt. On vous retrouve dans Rustica en vidéo et à lire évidemment, et puis chez nos confrères de l'Union Lardonnais, régulièrement en fin de semaine, et puis sur les ondes de RCF, puis aussi Hubert Le Jardinier.
Voilà, après une toute petite anecdote si vous me le permettez, c'est qu'au moment où vous m'avez appelé, on était en train de tourner une vidéo avec Grégory, mon fils, justement concernant comment on pouvait sauver et empêcher le gel sur les plantes, et notamment les tomates. Voilà.
Eh bien voilà, des bons conseils qu'auront les lecteurs et les viewers de Rustica. Nos auditeurs de RCF en bénéficient aussi. Et pour cela, on vous en remercie. À très bientôt, Hubert.
À bientôt, Alexis.
Le 18-19 sur RCF.
Un dernier invité ce soir, Sébastien Guenet, délégué général de l'UMM Champagne-Ardenne, est avec nous par téléphone. Sébastien Guenet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone pour nous présenter l'actualité de l'UMM, notamment du côté du pôle formation, avec des nouvelles formations au pôle de formation justement de l'UMM Champagne-Ardenne, Sébastien Guenet.
Oui, tout à fait. On a au niveau du pôle formation, mais comme chaque année, de nouvelles offres qui doivent permettre d'accompagner les entreprises industrielles du territoire à trouver les compétences dont elles ont besoin. Donc cette année, le pôle formation UMM Champagne-Ardenne ouvre plusieurs sections, des sections, on va dire, assez traditionnelles et dans nos cœurs de métier. Donc un premier bachelor en ressources humaines à Charleville-Mézières. L'objectif est d'accompagner les entreprises qui recherchent des compétences dans le domaine des ressources humaines à les trouver sur le territoire. Donc c'est un bac plus 3 qui aura vocation également à accompagner les entreprises industrielles dans le déploiement de la nouvelle convention collective. On a changé de convention collective dès cette année. Et donc, il y a de gros sujets RH auprès des entreprises de la métallurgie. Et donc, ce bachelor viendra les accompagner. Et puis également, un nouveau bachelor. Là, on est un peu plus dans le domaine exploratoire en intelligence artificielle, strictement dédié à l'industrie, avec des applications propres à l'industrie. Et puis enfin, un master en supply chain, donc la capacité des entreprises à aller acheter, et se fournir et puis envoyer leurs équipements. Et donc, un accompagnement spécifique sur un master en supply chain en partenariat avec l'Université de Reims.
Si vous ouvrez ces nouvelles formations, Sébastien Guenet, c'est parce que vous en ressentez le besoin? Vous sentez qu'il y a une véritable demande aujourd'hui des jeunes, notamment sur le territoire de la Champagne-Ardenne?
Alors, effectivement, parmi les trois thématiques que j'ai citées, hein, le sujet de l'informatisation et la numérisation de l'industrie est un sujet qui devient de plus prégnant auprès des entreprises, de toute entreprise, de tout secteur d'activité. Et puis, pour notre cas de l'industrie, donc on travaille déjà dans le domaine des objets connectés industriels, de la cybersécurité. Et cette activité dans le domaine de l'IA arrive dans chaque métier, et notamment ceux de l'industrie, sur les métiers support comme les métiers de production. Donc, on doit accompagner cette montée en compétences, cet accompagnement des entreprises. Bah, sur les ressources humaines également, hein, c'est des métiers qui sont fortement en tension et sur lesquels on doit accompagner les adhérents encore plus, effectivement, avec cette actualité sur la convention collective de la métallurgie. Et puis enfin, la capacité à aller se fournir en matières premières. C'est vraiment des difficultés aujourd'hui que rencontrent les entreprises, le sujet des matériaux, des matières premières, de savoir faire venir des matières premières à un bon prix également sur le territoire, de gérer la ligne de fabrication et de production et puis d'expédition sont vraiment des thématiques. Donc nous, on est là pour répondre à nos adhérents et puis à trouver effectivement des alternants qui ont envie d'aborder ces formations de haut niveau sur le territoire.
Évidemment, aujourd'hui, on parle des nouvelles formations avec vous, Sébastien Guenet. Pratiquement à chaque fois que vous êtes en ligne avec nous, on vous pose cette question, mais aujourd'hui, ce visage de l'industrie, il a changé par rapport à l'industrie que l'on imaginait il y a encore ne serait-ce que 20, 30, 40 ans. Aujourd'hui, l'industrie, c'est quelque chose de tout à fait moderne qui est lié, comme on le voit avec ces nouvelles formations qui ouvrent, avec l'évolution de la société et l'évolution des technologies.
Aujourd'hui, je pense que le grand public a pris conscience avec les épisodes de Covid, de tensions sur le médicament. Là, on parle en ce moment des marchés de la défense, on parle des marchés de l'énergie. Aujourd'hui, un pays souverain ne peut pas penser justement à sa souveraineté sans penser à l'industrie, l'industrie sur le territoire. Donc il y a une reprise de conscience de l'importance de l'industrie sur nos territoires, a fortiori sur des départements aussi industriels comme les Ardennes et la Haute-Marne, en Champagne-Ardennes, mais la Marne est très également industrielle avec l'agro-ressource, il faut bien alimenter la population, donc l'industrie est dans la tête de chacun. Et bien les grands défis d'industrie, c'est ceux que j'ai cités aujourd'hui, c'est le défi d'avoir des ressources humaines et des compétences. Aujourd'hui on a besoin de compétences pour accompagner le développement et le maintien de l'industrie sur les territoires. Et puis après, c'est les grands enjeux, qu'ils soient énergétiques, environnementaux, ou qu'ils soient dans le domaine de la numérisation. Et comme le territoire, effectivement, a de gros besoins en termes de renouvellement de compétences et puis de projection sur l'avenir, le sujet de la formation sur le territoire, de former les jeunes sur le territoire en alternance, est l'une de nos priorités.
Et lorsque vous parlez de nouvelles formations et que vous parlez aussi de jeunes qui vont venir fréquenter les écoles et le pôle formation de l'UMM Champagne-Ardennes, Sébastien Guenet, vous mettez tout en place pour les accueillir au mieux en développant également des résidences alternantes. De quoi s'agit-il ?
En fait, c'est un concept qu'on a initié dans la Marne, à Reims, puisqu'aujourd'hui, dès la création de notre centre Rémica à Reims, on avait créé 130 logements meublés à Reims à destination de nos apprentis. Donc, on propose en fait à nos apprentis à Reims, dans la Marne, en fait, de venir fréquenter le centre de formation du pôle formation IRN et de trouver juste à proximité du centre de formation des logements meublés clés en main pour juguler en fait la difficulté qu'ont parfois nos apprentis à se domicilier deux fois, voire trois fois auprès de l'entreprise, dans leur famille et puis auprès du centre de formation. Tout ça a des coûts et donc c'est de faciliter la signature du contrat d'apprentissage. Et dans les Ardennes, en fait, on a la même difficulté que l'on rencontre avec une offre aujourd'hui pour les étudiants assez pauvres globalement. Et donc on a choisi avec notre partenaire Espace Habitat et Protéam de bâtir une résidence de 103 logements meublés juste à côté de notre centre de formation à Charleville, à Ville de Gaulle, et de proposer en fait à nos alternants, qu'ils soient à Ville de Gaulle, qu'ils soient sur le campus Sud-Ardennes ou à Donchy, proposer à nos apprentis en fait de leur faciliter la vie simplement en ayant cette domiciliation, ces logements meublés juste à côté du centre de formation, et qu'ils soient sur le logement, en tout cas à particulier à côté du centre de formation.
Est-ce que par le retour d'expérience que vous en avez, Sébastien Guenet, vous sentez que c'est un vrai plus pour attirer parfois des jeunes qui hésitent un petit peu de se dire « voilà, il y a cette proposition à côté de ce logement meublé et que c'est quelque chose qui peut faire la différence dans le choix ou un autre d'une formation ?»
Ah oui, c'est certain, on a vu à Reims, nos 130 logements meublés, j'allais dire, sont loués toute l'année et sans vacances aucune. Donc c'est un premier retour d'expérience. On a vu également des jeunes qui étaient un petit peu éloignés du centre de formation de Reims venir, donc c'est aussi un facteur d'attractivité pour nos centres de formation. Et donc, on espère, on est convaincu que cette proposition qui sera faite à Charleville contribuera au développement de nos actions de formation sur l'enseignement et notamment la formation supérieure en alternance à Charleville. Et puis de proposer des solutions pour des jeunes d'Ardennais un peu éloignés sur les territoires qui nécessitent plus d'une heure de route, que ce soit peut-être Vouziers, Givet, Carignan, de venir au centre de formation, de se former sereinement encore une fois, et puis de retourner auprès des entreprises, peut-être sur leur territoire, durant les périodes en entreprise.
Des nouvelles formations, de quoi accueillir les alternants qui vont vous rejoindre, Sébastien Guenet, délégué général de l'UMM Champagne-Ardennes, et puis aussi des rendez-vous, j'allais dire, pour séduire à la fois les futurs étudiants et peut-être aussi, pourquoi pas, les parents. On pense notamment au rendez-vous Job et Alternance Dating. Il y en aura un, en tout cas, du côté de Charleville-Mézières, le mercredi 5 juin.
Oui, le 5 juin, en fait, alors on organise des événements historiquement avec le pôle formation UMM. On organise des job dating dans le domaine de l'alternance. On fait rencontrer de futurs candidats à l'alternance au centre de formation qui vont rentrer en septembre et qui recherchent en ce moment leur contrat d'apprentissage. Et puis des entreprises qui recherchent elles-mêmes leurs futurs apprentis pour la rentrée de septembre. Donc tous les ans, en fait, on organise un événement de rencontre entre candidats et recruteurs. Et puis cette année, de manière un peu plus intense, on adjoint également les sujets de l'emploi. La problématique numéro une des entreprises en ce moment étant réellement le sujet des compétences et de recruter des collaborateurs, on s'est associé notamment avec France Travail et les missions locales pour, j'allais dire, sur une demi-journée, faire rencontrer un maximum de candidats à l'emploi dans les entreprises, CDI, CDD, et puis des entreprises qui recrutent, et donc d'avoir sur une journée, c'est-à-dire l'ensemble du panel, CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat d'alternance, et de favoriser les échanges, et puis on espère les recrutements. Donc effectivement, ce sera le 5 juin à Charleville-Mézières pour l'édition des Ardennes.
Ces rendez-vous, ils restent essentiels, Sébastien Guenet, aujourd'hui encore, pour continuer de vous faire connaître auprès du public, auprès des jeunes, et puis aussi pour créer ce réseau de partenaires avec les différentes entreprises qui sont dans cette partie UMM.
C'est essentiel aujourd'hui en tant qu'UMM, je vous le dis, à nos adhérents, lorsqu'on les interroge, alors, si le sujet de l'énergie est encore une préoccupation importante, si le sujet du business est une préoccupation importante, le sujet de recruter est vraiment leur première priorité. Et donc, quand on parle, j'allais dire, de souveraineté française à travers de son industrie, on ne prend pas l'industrie sans compétences. Hein. L'industrie a besoin de compétences et de collaborateurs qualifiés pour fonctionner. Donc, ce rendez-vous-là, il est un point d'orgue de tout ce que l'on fait toute l'année, bien entendu, mais il est très important. Et puis, il est très important aussi d'avoir une visibilité et de savoir que chacun, chaque habitant des Ardennes sache que son industrie sur son territoire recrute et qu'il est important, de se préoccuper et de s'intéresser aux métiers et à l'ensemble des métiers qu'elle propose. Comme j'ai dit tout à l'heure, on parle bien entendu des métiers très techniques, mais également des métiers supports. On parle de la numérisation. Donc, aujourd'hui, l'industrie offre un éventail de métiers très importants et très intéressants pour les jeunes du territoire qui souhaitent, et puis des familles qui souhaitent s'y intéresser.
Eh bien, en tout cas, un grand merci, Sébastien Guenet, de nous avoir éclairé sur ces actualités de l'UMM Champagne-Ardenne. On rappelle, vous êtes le délégué général de l'UMM Champagne-Ardenne. On vous dit à très bientôt et on invite nos auditeurs à vous retrouver à ces différents rendez-vous, notamment pour le job et alternance dating. C'est le mercredi 5 juin de 9h à 18h au pôle formation UMM Champagne-Ardenne de Charleville-Mézières. Il y a d'autres rendez-vous en région qu'on ne manquera pas de relayer à nos auditeurs qui peuvent rester connectés aussi sur nos réseaux et nous suivre sur l'antenne. À très bientôt, Sébastien Guenet.
Merci, Alexis.
Et après ces rendez-vous, nous, on prend rendez-vous avec la météo d'Alice Dark, notre stagiaire à la rédaction. Rebonsoir Alice.
Rebonsoir Alexis. Rebonsoir à tous et à toutes.
Quelles sont les tendances en Champagne-Ardenne pour demain mercredi, Alice?
Eh bien, demain matin, les températures seront plutôt fraîches, avec un ressenti de 3 degrés à Reims, Rethel et Vouziers, et de 1 degré à Charleville-Mézières et Sedan. Le ciel sera très nuageux et quelques averses seront présentes à Charleville-Mézières. Les températures augmenteront dans l'après-midi et ne dépasseront pas les 10 degrés. Des averses sont prévues cette fois à Rethel et Vouziers. Le vent se lèvera dans les Ardennes avec de fortes rafales à 40 km/h à Charleville-Mézières, 55 km/h à Vouziers, 60 km/h à Sedan et 65 km/h à Rethel. Le ciel couvert de l'après-midi se dégagera dans la soirée pour laisser place aux rayons du soleil. Les températures diminueront et seront aux alentours des 7 degrés. Le ciel sera dégagé toute la nuit. Demain, nous fêterons les fidèles.
Merci en avance, une bonne fête à toutes les fidèles. Alice, on vous dit à demain, 18h10, 19h, pour le magazine local.
Eh bien, à demain.
Une très bonne soirée à tous nos auditeurs. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, l'information nationale avec le réseau RCF. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes. Prenez soin de vous.